Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107 si vous nous rejoignez au programme de cet instant de Bartas. Dans un instant, nous serons avec Philippe et Heidi de l'association Ennemi BD, le festival de bande dessinée de Saint-Ennemi, Bulle de Burle revient et ce sera du 4 au 6 juillet prochain. On en parle avec elle et lui dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, direction là où on serait pour le reportage d'Emmy, notre stagiaire qui était là la semaine dernière, sur l'exposition qui a lieu en ce moment, qui s'appelle Les Voisins s'exposent. Vous êtes bien sûr à Radio Bartas. Vous êtes bien sûr Radio Bartas, l'été a démarré et il y a un signe qui le montre, c'est que je suis ce matin avec Philippe, bonjour.
Bonjour,
et
bonjour
à tous. Et Heidi, bonjour.
Bonjour.
Respectivement président de l'asso Ennemi BD et animatrice de cette même asso depuis 7 années, le festival Ennemi BD revient. Ce sera les 5 et 6 juillet prochains à Saint-Ennemi, bien sûr, c'est la 18e édition. D'ailleurs, ça commence un petit peu avant avec une soirée le vendredi, c'est ça?
Ouais, petite nouveauté, soirée d'ouverture dès le vendredi, permettant en fait un premier contact un peu privilégié, j'allais dire, très attendu des aficionados avec les auteurs et en amont, bien sûr, des dédicaces. On a trouvé un lieu magique. Le couvent de Quézac.
Eh oui, très très beau lieu. Ouais,
voilà, son jardin, ça va faire un peu guinguette. Et en plus, cerise sur le gâteau, un spectacle, mais dont on va parler.
Mmh, avec plaisir, évidemment. Heidi, moi je voudrais savoir, parce que tu as intégré l'asso cette année en tant qu'animatrice, comment ça se passe? Quelles sont tes missions au sein d'Ennemi BD?
Alors, il y en a énormément d'émissions. Il faut savoir tout faire dans une association, c'est un peu comme ça la base. Alors, je vais dans les écoles avec Philippe et avec des illustrateurs, illustratrices, comme dernièrement avec Eric Hupsch, qui sera là aussi au festival.
C'est bien, t'anticipes toutes mes questions.
Vas-y, ouais, voilà, c'est ça.
C'est parfait.
Je lis dans les pensées aussi.
c'est la formation Ennemi BD,
c'est ça.
Exactement. Et donc voilà, on va aller par exemple dans des bibliothèques, dans des écoles du coin pour montrer quel est le métier d'illustrateur et s'initier aussi au dessin en créant soit un dessin pas à pas comme le dragon d'Eric ou alors une petite BD en 6 cases avec une case de démarrage avec deux extraterrestres. De Eric aussi et du coup on s'essaye déjà et après pourquoi pas selon les écoles faire des projets plus longs avec une vraie création de bande dessinée et d'ailleurs les petits de Saint-Chély-d'Apcher vont faire leur première dédicace pendant le 5 et 6 juillet parmi tous les auteurs autrices.
Ça, c'est bien la classe. Hein. Voilà, c'est pas la première année qu'il y a des enfants qui viennent comme
non,
ça.
Non, c'est pas la première année, mais ce qu'elle dit pas, parce qu'elle est un peu modeste, c'est que si les livrets sortent et ils font entre 60 et 80 pages, c'est pas neutre, hein. 4 classes, 80 gamins, une planche pour un ou deux gamins, c'est que c'est elle qui est ensuite à la manœuvre sur tout ce qui est mise en page, maquette et pré-impression. Et donc ça, pour nous, c'est précieux, parce que la chaîne du livre, on voulait la faire vivre nous aussi, et aller donc jusqu'à l'édition et offrir au jeune public la possibilité de vivre cet ensemble et d'aller donc jusqu'à la dédicace, ça marche.
Petit retour sur l'édition de l'année dernière, comment ça s'est passé, sachant que vous avez dû vous adapter puisque c'était les élections et donc espace réduit.
Ouais, l'an dernier, deux surprises, une juste avant et une pendant. Juste avant, c'était l'arrivée des élections et donc la suppression pour nous d'un espace privilégié qui est celui de la salle du conseil. Et donc on a dû retomber sur une autre organisation, on a anticipé dans l'espace la présence du public jeune et finalement ça a été super. Ouais. Les auteurs appréciaient beaucoup parce que le public arrivait vers eux et c'était finalement le public de masse que nous on croise à travers les animations dont parlait Heidi et qui est pour eux assez inhabituel dans les festivals. Parce que les festivals c'est des aficionados, tranche d'âge 50-70, là ils voient arriver un petit public de 8 à 15 ans accompagné des parents, donc ça a bien fonctionné. Deuxième surprise, celle-là, on l'a pas totalement gérée, mais on l'a fait avec, c'est l'orage. On n'y avait jamais eu droit. Puis là, on y a eu bien.
Un beau, ouais.
Voilà, c'était la fontaine dans le vieux village. Ça coulait de partout. Il a fallu rapatrier quelques auteurs à l'intérieur. Mais bon, la bonne humeur aidant, finalement, ça s'est bien terminé.
Comme je dis, avec le sourire, ça passe.
Bien sûr.
Est-ce que tu as constaté, Philippe, alors je ne vais pas te poser la question, Heidi, puisque ce sera ta première année cette année, est-ce que tu as constaté une évolution dans le profil et l'intérêt du public ces dernières années?
Oui, alors ce qu'on voit, nous, c'est deux tendances. Hein. La première, c'est une inscription de plus en plus significative dans le public des aficionados, ces gens qui sont capables de faire 800, 1000, 1200 km pour nous rejoindre, parce qu'il y a tel auteur et tel autre, qui arrivent à 3h du matin, qui posent leur sac sur la terrasse de la salle des fêtes, et qui sont capable d'attendre en se gelant un peu, parce que le matin il fait quand même frais au bord de Burle, que les portes ouvrent. Donc ça, ce public-là, il gonfle, il enfle au fil des années. Alors pour une raison principale, d'abord, bon, bien sûr, ça commence à se savoir qu'à Saint-Denis, il y a un festival, mais c'est aussi qu'on a gardé, nous, un esprit d'ouverture dont il bénéficie, c'est-à-dire qu'on a toujours laissé les dédicaces ouvertes à la libre initiative des auteurs. Et donc ces aficionados arrivent avec un certain nombre de BD, parfois un peu anciennes, qu'on tolère, alors que nombre de festivals imposent un achat, une dédicace, ce qui donc ferme un peu ce type d'initiative. Donc ça, c'est une première tendance, l'installation de ce genre-là, de public. Et puis une deuxième tendance, c'est effectivement le renfort, je le disais à l'instant, grâce au travail qu'on fait tout au long de l'année en éducation artistique et culturelle, du public enfant. Alors pas encore le public jeune. Sur le manga, on mord, mais modestement. Mais par contre, sur le public enfant, aujourd'hui, on a une vraie place. D'abord parce qu'on offre de la dédicace aux enfants, mais aussi parce que les familles ont compris que c'était le rendez-vous de l'année où on pouvait faire son plein de BD avant l'été. Il faut occuper les petits pendant la sieste ou quand il fait chaud sur la plage. Et là, c'est le moment de venir avec les sacs bien vides pour les remplir. Quoi.
Et justement, je me disais, tu as fait un pari de placer Aficionados
Trois fois.
Bon. Ouais,
j'ai coché.
C'est tout bon, t'as bien gagné. Bien joué, 18e édition, l'année de la majorité. Est-ce qu'il y a des innovations, à part celle du couvent de Quézac la veille, mais des innovations, des nouvelles choses prévues cette année? Ou alors finalement, vous ne changez pas une recette qui fonctionne?
Deux innovations, donc celle dont on a parlé avec la soirée d'ouverture et un spectacle. Parce que ça, c'est important. Un spectacle qui est issu du monde de la BD, puisque c'est deux auteurs qui sont présents depuis plusieurs années, des auteurs lozériens, Laurette de Brichy d'une part et d'autre part Loïc Guanard, son compère, qui ont produit un spectacle avec un partenaire qui s'appelle Franck Bateau, qui s'appelle X Pyramédia, qui est issu du monde de loufoque qui est dans la tête de Laurette, c'est-à-dire qu'on trouve... On va trouver du manga, on va trouver de l'hologramme, on va trouver du mapping, on va trouver du chant choral. On se demande comment elle arrive à faire quelque chose avec tout ça. Mais quand on y assiste, c'est assez magique, c'est un monde à part. L'intelligence artificielle, bien sûr, la seconde, parce qu'elle a beau avoir un pochiche énorme, ça ne fait pas tout. Et donc, ça fait un petit cocktail de demi-heure, trois quarts d'heure, qu'on va offrir cette fois-ci donc, aux spectateurs, grand public, et puis ensuite, bien sûr, aux auteurs. Donc ça, c'est la première 20
nouveauté. 20h le vendredi au couvent de Quézac.
Voilà. À partir de 18h, 18h30, l'apéro, et puis ensuite, on enchaîne par le spectacle, et après, on ferme les portes et on reste avec les auteurs. Deuxième rendez-vous un peu différent, même s'il était en préfiguration depuis plusieurs années, on vient de créer un quatrième espace, aux côtés de l'espace jeunesse, de l'espace BD, de l'espace manga. La situation de l'an dernier où on a été privé d'une salle nous a amené à créer donc à utiliser un nouveau lieu, et du coup on s'est dit maintenant qu'on retrouve l'ancien, eh ben on va en profiter pour faire autre chose. Et donc on fait un espace découverte où là les découvertes peuvent être multiples. Ça peut être des auteurs qui arrivent sur le département et à qui on offre une visibilité comme on l'a toujours fait. Ça peut être des publics jeunes qui sont en production. Ça peut être des gens qui présentent un genre assez innovant. Voilà, on est là au creuset de la recherche, ce qui va permettre un peu de sentir les nouvelles tendances qui peut-être un jour feront un tabac ou peut-être feront pchit au bout de deux semaines. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de laisser une place à tout le monde.
Bien sûr. Heidi, toi qui as un regard neuf sur ce festival, comment ça s'est fait pour la sélection des auteurs et des autrices de BD?
Alors, c'est une très très bonne question. Je pense qu'au fur et à mesure des années, déjà, il y a pas mal d'auteurs qui reviennent chaque année. Donc, il y a quand même un noyau qui sont fidèles et qui reviennent pour l'ambiance, pour les décors, pour c'est vraiment ce festival qui a une couleur particulière en Lozère. Et ensuite, on essaye de mettre... aussi une place en évidence pour toutes les femmes qui créent, parce que c'est pas, voilà, c'est pas un milieu non plus très majoritaire pour le moment. Et voilà, on essaye d'apporter un peu de nouveauté quand on nous le demande. Et bien sûr, voilà, laisser la place à tous ceux qui veulent. Après, j'ai pas été vraiment dans la sélection, donc je peux pas être plus pointilleuse que ça. Mais franchement, je pense que cette année, y a de quoi faire pour petits et grands. Il y a de très, très beaux, très, très belles BD et différentes et originales.
En fait, ça commence dès l'automne. C'est pour ça qu'Heidi dit « j'ai pas tout vu, normal, est arrivée avec nous dans l'hiver ». Elle a supporté l'hiver et elle a supporté l'été. Mais dès l'automne, effectivement, on est dans ce renouvellement de la fidélisation. Mais aussi, un troisième volet, c'est le cooptage. C'est un monde de la BD qui est finalement très, très solidaire. Et donc, dans lequel il suffit d'appuyer sur l'un pour qu'il parle à l'autre et que l'autre parle au suivant. Et se dise, bon, c'est tes limites, il n'est pas encore allé, mais il te faut y aller, mon gars. Et donc, ce petit cercle-là d'initiés, finalement, s'élargit tout seul, quoi. Quelque part, après, c'est à nous d'équilibrer les genres, d'équilibrer les sexes, comme le disait très justement Heidi, et puis de faire en sorte que nos différents espaces puissent être nourris d'une partie de nouveautés quand même chaque année, quoi.
Alors, on ne va pas pouvoir parler de tous les auteurs et toutes les autrices, parce qu'il y en a beaucoup, et que, bon, même si on aime bien prendre le temps ici à Bartas, ça ferait quand même vraiment trop trop long. Moi j'aimerais qu'on commence évidemment par parler de l'affiche, hein, puisque comme d'habitude vous faites appel à un auteur ou une autrice d'ailleurs pour l'illustrer en fait, et cette année elle a été faite par qui, je pense, c'est une collaboration entre le dessin et une coloriste.
C'est ça. Alors en fait c'est un couple qui vit dans le Vercors, lui s'appelle André Houot, c'est un auteur issu du monde du médiéval, de l'heroic fantasy, qui a un dessin très réaliste de très haut niveau, hein, qui est, aujourd'hui a une réputation internationale dans le métier. 40 ans de métier, il était initialement aux Beaux-Arts, prof de dessin aux Beaux-Arts, donc il a un savoir-faire. Et puis surtout, il apporte ce qui est de plus en plus rare malheureusement en bande dessinée, de la couleur directe. Cet homme-là est capable à partir d'un dessin, d'un crayonné, de prendre sa palette de peinture, là en l'occurrence il a travaillé en acrylique, et de faire de la couleur directe, c'est-à-dire de prendre le risque de travailler directement sur son original, sans passer par un ancrage, sans passer par un bleuet. Et ça, c'est exceptionnel, d'autant plus qu'on lui a passé, comme toujours, commande un petit peu de contextualiser. Hein. Donc il a réutilisé la belle ennemie, il a réutilisé le drac, il a réutilisé bien sûr le village, mais il y a apporté son talent personnel. Et en plus, pour ceux qui ont l'œil, il nous a commis deux versions. La version du flyer, du programme, est très légèrement différente de la version de l'affiche parce qu'en fait, il est reparti deux fois. Il a fait deux fois le plaisir de peindre. Et la version Heroic Fantasy qui lui est chère est celle qui illustre le programme avec des teintes beaucoup plus violacées qu'il a réussi à soutenir sur l'ensemble du tableau. On peut parler de tableau dans ce cas-là. Et qui reste un clin d'œil exceptionnel à la fois à notre histoire, à notre territoire et à son talent, quoi.
Et le tout colorié par Jocelyne Charance.
C'est ça, sa collaboratrice avec qui donc, ils sont systématiquement présents en dédicace.
Au niveau des auteurs, autrices, est-ce que cette année vous proposez des avant-premières, des exclusivités ou des lancements d'ouvrages? Ou pas d'ailleurs?
Bien sûr, on essaye. Alors il ne faut pas non plus tomber dans le « je cherche à tout prix du nouveau » parce qu'il y a de la qualité, y compris dans les bibliographies des auteurs. Mais on peut dire que pratiquement la moitié d'entre eux ont une nouveauté, au moins, si ce n'est plusieurs. Et ça, c'est important pour le public un peu spécialisé en bande dessinée, qui vient chercher, bien sûr, ces nouveautés. Mais c'est aussi une façon de montrer au grand public, au public famille notamment, la variété des genres qui aujourd'hui explose en bande dessinée, depuis bien sûr la BD franco-belge classique avec du trait, mais aussi le roman graphique et puis d'autres tendances telles que celles dont on parlait tout à l'heure avec Laurette de Brichy ou autres élucubrations graphiques, mais qui donnent à chacun une palette de choix et puis surtout une éducation finalement artistique spontanée à travers ces deux journées, quoi.
Un mot sur les ateliers évidemment qui reviennent encore cette année, Heidi.
Oui, alors sur les deux journées, samedi et dimanche, ce sera à 11h et à 15h et on aura vraiment beaucoup, beaucoup d'ateliers. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas parce qu'on va avoir à peu près dans chaque espace un atelier différent. Donc pour en citer quelques-uns, on aura la création de bandes dessinées évidemment, la création de personnages manga. Et on aura aussi un stand de création d'origami dont on pourra faire des marque-pages ou des œuvres aussi en collectif. Et un atelier qui sera aussi animé par Clara Petitclerc et Nia Cloud, qui sont deux jeunes artistes qui viennent sortir de l'école, qui vont créer un atelier de création d'une BD géante, donc qui restera... voilà, une œuvre de tout à chacun de ces deux belles journées.
Donc ces ateliers, c'est à 11h le samedi et le dimanche, et l'atelier manga, c'est à 15h le samedi et dimanche aussi, c'est ça ?
Oui, ça va se dispatcher selon les auteurs, parce qu'en fait, ça va être principalement animé par des illustrateurs et illustratrices professionnels. Donc c'est chouette d'avoir leurs conseils aussi. Donc je vous laisse la surprise en live.
Bien joué.
Alors après,
avec plaisir.
Petite cerise sur le gâteau, mon cher Ben, on revoit un redoublant, presque un triplant, j'allais dire, qui s'appelle Jacques Chupin, qui lui aussi fait un atelier, mais c'est pas un atelier où on fait soi-même, parce que c'est une technique très particulière, c'est la gravure en taille douce sur plaque de cuivre. C'est un métier exceptionnel, il était prof à l'école de boules à Paris. Il est aujourd'hui disponible pour, de façon généreuse, nous offrir une plaque concernant chaque année une illustration. L'an dernier, c'était notre affiche. Cette année, c'est un dessin d'André Houot. Et il fait de la démonstration directe avec tout son attirail, ses petits ciseaux, ses toutes petites lunettes grossissantes et ses plaques de cuivre. Et je pense que ça, c'est un détour pour ceux qui aiment le beau travail, l'artisanat d'art. C'est un beau détour à faire à l'intérieur de la grande salle des fêtes, sur l'estrade. Jacques Chupin sera là pendant deux jours.
Spectacle aussi, hein, évidemment, puisque maintenant ça devient aussi quelque chose de récurrent depuis quelques années. Les deux jours à 10h, deux spectacles différents.
Ouais.
Enfin, il y en a un le samedi à 10h et un autre le dimanche
c'est
à 10h que je vois tout à fait.
L'idée, c'est d'offrir aux tout petits, accompagnés bien sûr de leurs adultes, les parents, les grands-parents, les amis, etc., un premier clin d'œil, un moment où on se réveille, un moment où les mots sont là. Mais ils ne sont pas là que posés sur un papier, puisqu'on n'est pas encore capable de lire, mais ils sont là mis en voix, mis en musique, et partagés donc dans un moment un peu intime, qui regroupe 30 à 40 bambins, ce qui est beaucoup, mais la médiathèque est bien pensée à Saint-Élémy à cet effet. Et c'est une sorte de starter de la journée, qui, en début de matinée, vers 10h, permet à chacun d'avoir ce moment d'émotion partagé autour de l'expression orale d'un texte. D'un texte, bien sûr, offert à la portée des enfants.
Le festival collabore depuis des années maintenant avec des maisons d'édition, librairies. Qu'en est-il cette année ?
Alors, là aussi, fidélité et nouveauté. Fidélité avec nos collègues des éditions Jargille, qui continuent à faire leur bout de chemin après 20 ans de création. Ils ont un catalogue qui commence à faire pas loin de 150 auteurs, donc ça prouve que leur chemin ne s'est pas arrêté de façon brève. Et ils seront présents à nouveau cette année avec 3-4 auteurs, dont Deloupi, qui malheureusement est dans une thématique très d'actualité, puisqu'il a beaucoup travaillé sur le Moyen-Orient. Il a fait un travail sur les femmes en Iran, il a fait un travail sur le fonctionnement du rapport entre les hommes et les femmes entre Palestine et Israël. Il a récemment encore travaillé sur l'Algérie. C'est du roman graphique de très grande qualité et qui montre que le roman graphique peut être justement au service de la compréhension de ce qui nous entoure, de l'interpellation que ça peut nous provoquer, de l'émotion que ça peut engendrer et de la capacité que le regard écrit, graphique, peut nous donner en termes de complément par rapport à la médiatisation à outrance à laquelle on a droit. Donc ça, c'est les éditions Jargille. Sera avec lui aussi Luric Stahl, qui a travaillé sur le handicap, qui a fait un super bouquin qui s'appelle « Un caillou dans la chaussure ». Et bien sûr, Michel Jacquet, scénariste de la bande. Donc voilà, ça c'est les éditions Jargille. Ils sont du Forez et ils sont fidèles. Après, on a ouvert la porte cette année à une nouvelle édition. Les éditions Kuma, qui viennent de Grenoble. Ce sont deux filles qui ont pris l'initiative de cette petite maison d'édition, qui ouvre d'entrée sur trois genres, le manga, la BD classique et le roman graphique. Et qui vont donc être présentes dans l'espace manga, on leur a fait une petite place là, et qui vont elles aussi être là en découverte d'un public et en rencontre d'autres professionnels. C'est une façon de leur donner un peu un pied à l'étrier.
Je te pose la question tous les ans, évidemment, la place des femmes dans ce monde très, très masculin, il s'ouvre vraiment tout doucement, mais sûrement.
Oui. On ne va pas faire de stats, hein, ça ne sert à rien, on n'est pas là pour ça.
Bien sûr.
Mais ce qu'on peut se dire, c'est que pour nous, les femmes qui constituaient dans la BD plus un prétexte graphique et scénarisé d'apporter de la complexité et du partage au lecteur, aujourd'hui ont leur place en termes de création, que ce soit en termes d'auteur ou en termes d'illustration. Et nous, cette place, on la leur donne. On la leur donne au fur et à mesure que les opportunités se présentent. Bien sûr, hein, on ne fait pas du forcing en disant qu'il faut un quota de tant de femmes. Mais par contre, on la trouve du coup de trois façons. On la trouve bien sûr dans les publications, où la femme a sa place, mais dans une réflexion profonde, comme je disais à l'instant, sur par exemple la femme au Moyen-Orient. On la trouve bien sûr dans la publication, à travers des femmes scénaristes, il y en a, et puis à travers des femmes illustratrices. Et dans les femmes illustratrices, on essaye aussi d'ouvrir la porte, là aussi, à des auteurs de proximité. J'ai cité Laurette de Brichy, qui est maintenant sur Marvejol et qui a un atelier 3D. Mais plus récemment est arrivée Anna-Louise Giraud, qui est à Chanac, qui a une petite maison d'édition qui s'appelle Aloïse Création et qui a frappé à la porte tardivement, mais à qui on a laissé un petit coin de place pour elle aussi faire ses propositions. Elle est dans le domaine de la publication jeunesse et dans ce style un peu médiéval, donc ce n'était pas anachronique. Et puis surtout, bah, elle avait droit à sa place elle aussi, quoi.
J'aimerais qu'on dise un petit mot, puisque vous avez obtenu, d'après ce que j'ai compris cette année, le label « Année de la BD ».
Ouais. Alors c'est pas cette année, c'est déjà un peu ancien, mais c'est un label qui, quand on l'a obtenu, reste, et ça c'est important pour nous. C'est une reconnaissance en quelque sorte du ministère de la Culture qui date de 2020, l'année de la BD, l'année nationale de la BD. Et cette année-là, il y a eu un appel à projets au niveau national pour retenir une vingtaine de projets, que ce soit des projets de diffusion, de création ou des projets de mise en relation. Et donc, on a été retenu par notre dimension hyper rurale et continue d'activité autour du 9e art. Et on a obtenu ce label, le label BD, année de la BD, et qu'on a le droit donc de valoriser au fil du temps, qui montre que bon, on a aussi donc cette dimension culturelle, puisque je crois que la BD c'est un art industriel, certes, et les auteurs sont toujours conscients que c'est par le nombre de ventes qu'ils sont valorisés, mais nous on tient aussi à montrer que c'est d'abord un art. Au sens culturel du terme.
La question, c'est pour tous les deux. C'est quoi les principaux défis dans l'organisation d'un tel événement en milieu rural, Heidi ? Qu'est-ce que tu as pu remarquer sur cette année ? Enfin, ces quelques mois, parce que ça fait pas encore un an que tu bosses pour une BD.
Le défi, c'est... Je vais parler de mon prisme à moi,
bien
parce
sûr.
Que voilà, ça fait pas longtemps que je suis là. Il y a forcément un aspect organisationnel de préparation pour que tout se déroule au mieux et qu'on puisse accueillir tout le monde dans les bonnes conditions. Et il y a aussi l'aspect communication que je touche un peu plus, où il faut multiplier les réseaux, les médias pour que voilà ça se sache et que on puisse dire à tout le sud de la France, je vais dire déjà pour cette partie, à tout le sud, on est le pays de la BD, donc venez, on a plein de découvertes à vous proposer et surtout venez en famille, entre amis, c'est vraiment un lieu incroyable dans les gorges du Tarn, c'est vraiment un cadre idyllique pour partager deux jours à l'entrée des vacances. Donc voilà, c'est un enjeu aussi important, la communication, pour que tout le monde soit au courant, que ce soit ceux qui sont proches et moins proches.
Philippe, 18 ans, ça a évolué, évidemment. Maintenant, c'est réglé comme du papier à musique.
C'est jamais réglé.
Je me doute.
Parce qu'en fait, c'est une aventure humaine, permanente. Permanente à la fois en interne, pour nous, c'est une équipe qui vit, avec des va, des viens, des gens qui arrivent, d'autres qui repartent, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Et il faut arriver à faire vivre cette entité, lui laisser sa dynamique, lui permettre quand même d'avoir un fil conducteur pour arriver à un objet précis qui est ces événements face au grand public. Donc ça, c'est une aventure humaine déjà en interne, et c'est jamais gagné. Et puis, c'est une aventure humaine, bien sûr, dans le rapport aux autres, les auteurs. Je crois que Heidi le disait tout à l'heure, Saint-Enémy est repéré comme un lieu où il faut aller, pour les auteurs, parce qu'il y a de la convivialité, parce qu'il y a de l'humain, parce que tout le boulot qu'on fait en amont, c'est pour être encore plus disponible quand ils sont là, c'est pour être nous, tout simplement, et ça, c'est l'essentiel, quoi. Et puis ce nous, cette humanité, elle est à partager aussi avec le public. Quand les gens arrivent, on est disponible, on est à leur service, on est là pour leur expliquer, parce qu'il faut faire preuve de pédagogie. Le monde de la BD, c'est pas si simple que ça pour tout le monde. Hein. Arriver dans un festival, voir des mecs là qui grattent du papier derrière une table, quand on n'est pas initié, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. Prendre du temps pour expliquer que ces mecs-là, ils en profitent pour sortir, pour se voir, et puis qu'une BD, ça prend un an de boulot, etc. C'est autant de petites clés qui vont créer aussi cette humanité partagée avec le public et entre le public après et les auteurs.
Est-ce que vous avez des envies, des projets d'extension ou de diversification du festival ou finalement c'est quand même déjà assez pas mal comme ça, quoi?
C'est pas le festival qui fait l'objet d'élargissement. Je crois que Heidi l'a un peu dit tout à l'heure, c'est complexe notre affaire. Certains diraient avec un mot choisi, c'est un écosystème. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est parti d'un événement qui était le festival. Et on a créé autour de cet événement ce qui pourrait aimanter effectivement les gens, mon lapsus était significatif, c'est-à-dire aller chercher tout au long de l'année à partager notre passion, à la faire vivre, à faire en sorte que ce qu'on découvre quand on rencontre des gens et qu'on dit BD et qui fait qu'ils ont les yeux qui brillent, on puisse l'entretenir, on puisse le cultiver, le pousser plus loin, laisser des traces, éditer, installer ces pistes-là qui sont neuves et qui sont sans arrêt pour nous quête jamais acquise mais quête passionnante, quoi. Là on est en train, demain matin on va avec les collègues de la mairie installer aux quatre entrées du village quatre portraits d'ennemis, quatre affiches signées des meilleurs illustrateurs qu'on ait connus depuis 20 ans chez nous et qui seront comme le disait Heidi, ennemis au pays de la BD, quoi. Parce que, quelque part, cette identification du village à son personnage préféré et au monde de l'illustration, elle est aujourd'hui installée, mais elle n'est jamais acquise. Donc là, on avance d'un pas de plus, on a fait un parcours illustré dans le vieux village. Là, on fait des entrées significatives. Peut-être qu'à l'automne, lors des rencontres, mais on en parlera autour de la source d'ennemi, on installera notre parcours, mais là, vers l'ermitage. L'idée, c'est de ne pas masquer notre paysage. Il est, Heidi le disait, dominant. Mais par contre, de l'illustrer. L'illustrer pour mieux le faire partager.
Heidi, une question personnelle. C'est quoi pour toi une bonne bande dessinée?
Une bonne bande dessinée, c'est se faire kiffer. En disant avec mes mots. C'est prendre du plaisir, que ce soit au niveau graphique et au niveau de l'histoire. Attendre toujours qu'est-ce qui va se passer ensuite. Essayer de pas trop se spoiler sur la page suivante. Et découvrir aussi. J'ai un peu fouiné dans les titres, parce que voilà, on a reçu les premiers exemplaires de la librairie du 5 et 6 juillet. Et c'est vraiment chouette. Je connaissais pas toutes ces BD et j'ai hâte de rencontrer les auteurs en vrai.
Il y en aura pléthore au festival Ennemi BD. Ça commence le vendredi 4 au couvent de Quézac, 4 juillet, évidemment, à partir de 18h. Pour l'apéro et à le spectacle à 20h. Et puis forcément le samedi et le dimanche, plein de dédicaces, plein de bandes dessinées. Allez vous régaler. Merci beaucoup à tous les deux. Oui, Philippe.
Juste un mot. Avec et plaisir. En plus, c'est gratuit.
Et c'est gratuit.
Oui, retrouvez toutes les informations sur www.enemy-bd.fr pour voir une petite présentation de chaque auteur avec leur BD pour découvrir tout ça.
Et je mets tous les liens sur notre site, évidemment, dans un instant. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Philippe, je tiens à dire que c'était toujours un plaisir de t'accueillir ici, puisque moi, je pars vers de nouvelles aventures. Donc voilà, je me souviens que ma première interview ici sur cette antenne, c'était le 6 juin 2018 avec Eric Hupsch, je vais y arriver, et toi. C'était il y a déjà 7 ans. Voilà. Ouais. En tout cas, je te souhaite une bonne route, excellent festival à tous les deux et à très bientôt. Certainement pas sur cette antenne, mais en tout cas, ça a toujours été un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup.
Belle route à toi, Ben.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson, Darwin avait raison. Down. suis à quatre pattes, c'est pour les relations. Accroché à la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. C'est un poilu qui jette son dévolu sur la femme à deux têtes. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Fait le chat, pris le zar. Darwin avait raison.
Bonjour, nous sommes actuellement à La Ronceret, lieu de résidence pour les artistes situé à Saint-Laurent-de-Trèves. C'est un lieu porté par l'association Joya Encore. Régulièrement, chaque année, l'association ouvre ses portes à des expositions. En ce mois de juin 2025, l'exposition mise en avant se nomme « Les voisins s'exposent ». On y retrouve diverses œuvres comme des bijoux, des tableaux en marqueterie, de la photographie et des peintures. Parmi les quatre créateurs, nous allons rencontrer deux, Sophie Lemonnier, créatrice de bijoux à partir de champignons, et Bertrand Leloup, créateur de tableaux en marqueterie. On rencontre en premier Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer de manière imagée qu'est-ce que la marqueterie ?
La marqueterie, c'est au départ, c'est des meubles qu'on décore avec des plaquages de bois. Et c'était l'école Boulle qui a commencé à faire ces techniques-là. Et moi, je ne suis pas sur les meubles, je suis plus sur les tableaux de paysages, de personnages. Et c'est un collage de différentes essences de bois.
Pourquoi tu t'es lancé dans la marqueterie ?
J'ai rencontré en Alsace en 1985 un mineur de potasse, hein, Léon Tinelli, qui, moi je travaillais comme animateur en village vacances, un tourisme et travail, et lui venait en tant que retraité, mais surtout marketeur, faire des animations avec les vacanciers du village vacances pour découvrir la marqueterie. Et il faisait des petits stages de 2-3 heures où les gens repartaient avec un tableau qu'ils avaient créé. Et ça m'a bien plu et j'ai bien sympathisé avec lui. Il m'a formé et je suis même après avoir quitté l'Alsace, je suis retourné plusieurs fois le voir pour continuer un peu avec lui et puis aussi récupérer du bois parce qu'à l'époque c'était un peu compliqué de trouver le bois. Mais maintenant on a les sites internet et c'est beaucoup plus pratique.
Comment on fait un tableau ?
On part d'un dessin. Moi je pars souvent d'un dessin ou d'une photo. C'est du découpage, donc c'est de prendre une essence de bois qui correspond à notre dessin, enfin, un morceau de notre dessin, par exemple un sapin. Je retourne, je mets le bois sous la feuille de dessin, j'en mets une deuxième essence sur un deuxième morceau de dessin. Donc les deux bois se superposent. Avec une petite scie, je découpe le sapin et l'autre morceau de dessin, que, on va dire un deuxième sapin. Je découpe donc ces deux sapins. Et après, je me retrouve avec deux sapins d'essence différentes que je colle sur mon dessin. Et après, s'il y a d'autres sapins à découper, ben je continue la phase.
Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer ?
La première difficulté, c'est le sciage, parce que c'est une petite lame. Et le but de la marqueterie, c'est de ne pas voir la lame dessus, qu'il n'y ait vraiment pas de traces de scie, donc que ça soit bien jonctionné. Donc là, c'est pas très compliqué, parce que c'est avec l'expérience, ça vient assez vite. Hein. Le plus dur, c'est de la composition, c'est-à-dire qu'il faut trouver le bois qui corresponde vraiment à ce qu'on veut faire avec le tableau, le mouvement, le relief, faire un tableau un peu vivant, quoi. Et ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut vraiment trouver le bois qui correspond. Quelquefois, on met un bois et ça fait plouf, il n'y a pas de relief, c'est pas vivant. Donc, bon, c'est pas grave, on change le bois et à un moment, on y arrive. Mais le choix du bois est assez pas compliqué, mais c'est ce qui est le plus long à faire et c'est ce qui est le plus intéressant aussi. Quelquefois, il y a des bois qui nous donnent aussi une idée de paysage ou autre, quoi. Parce que le bois est tellement... le bois que j'ai, très varié. Quelquefois, il y a une veine, il y a un nœud, il y a quelque chose qui me dit, bah, tiens, ce bois peut servir à tel paysage ou autre.
Donc tu t'inspires beaucoup des paysages pour faire tes tableaux ?
Ouais, j'aime bien les paysages, mais j'aime beaucoup les paysages. J'ai fait aussi des personnages, mais c'est vrai que en plus je fais pas mal de sport nature, donc de me balader en Cévennes, ça me parle, donc ça fait partie de ma création de regarder ce qui m'entoure. Et puis maintenant, je commence à faire aussi un peu des montages en bois, quoi. Je travaille avec le bois que j'ai, sans vraiment de faire de dessin ou de le découper, mais c'est de le coller sur des supports de bois et de le poncer, de le mettre en avant. Et c'est un peu une nouveauté pour moi, mais c'est intéressant aussi.
Combien de temps tu mets pour faire une œuvre en général ?
On va dire 4 jours, quoi, 4-5 jours, ça dépend un peu des œuvres. C'est pas tout le temps 4 jours plein, parce qu'il y a quand même des temps de séchage, donc le séchage est assez long. Et quand on colle deux bois l'un sur l'autre, moi j'attends toujours un petit peu que le papier sèche pour découper, autrement le bois se déchire, quoi. Donc il faut un peu de temps. Et en général, je travaille sur deux tableaux. Pendant qu'il y en a un qui sèche, ça me permet de travailler sur l'autre, et ainsi de suite. Mais bon, il faut 4 jours. Bon, il y en a des plus rapides, des moins rapides, mais 4 jours, on a fait quelque chose d'acceptable.
Comment ton travail a évolué au cours du temps ? C'est-à-dire, tes techniques, est-ce qu'elles ont évolué ou est-ce qu'elles ont changé ?
Bah, ce que je disais tout à l'heure, je travaillais beaucoup sur les paysages et maintenant je commence vraiment à faire un peu plus de montage de bois sur ce que représente le marquage de bois, le nœud, les couleurs de bois. Quelquefois, il y a des choses qui m'intéressent et je colle sur des supports bois sans toucher, sans scier, sans rien, pour faire des trucs un petit peu plus modernes.
Es-tu plus rapide que tu l'étais hier ?
Oui, je suis plus rapide et plus ordonné.
Combien coûte un tableau en général ?
C'est notre première exposition, hein, et c'est un peu une découverte pour nous de voir déjà le retour des vacanciers qui passent ou des habitants du village ou de Lozère. Et on ne savait pas trop quelle valeur donner moi et mes voisines. Ça va de 10 à 50 euros les prix, mais c'est difficile. Enfin, de toute façon, ça ne paye pas le travail qu'on fait. Mais moi, je ne fais pas ça pour l'argent, c'est plus pour faire découvrir aux personnes qui viennent visiter l'exposition une technique de bois et comment on peut faire des paysages avec du bois. Et puis, de vendre quelques tableaux, ça permet de racheter un peu de bois, un peu de matériel, et ça, c'est très bien, quoi. C'est surtout ça qui ça me permet de racheter un peu de matériel et surtout du bois, quoi.
Est-ce que, si tu continuais, tu pourrais en vivre ?
Ça, je sais pas, oui, peut-être pas, peut-être une fois que je déménage de Saint-Laurent, de Trèves, mais honnêtement, je sais pas, mais c'est pas, mon but, c'est pas nul, mais il y a beaucoup de gens qui vivent de la marqueterie, hein. Il y a beaucoup, moi j'en connais beaucoup des artisans en Alsace, et puis après si on regarde sur les réseaux sociaux et tout, il y a quand même beaucoup d'artistes en marqueterie qui font de belles choses et qui en vivent, hein, je pense, hein, oui.
Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ?
Pour l'instant, nulle part. À part Saint-Laurent-de-Trèves jusqu'à la fin du mois de juin.
Et tu comptes continuer à les vendre et à du coup, en faire ?
Continuer à en faire, oui. Après, des projets comme j'ai fait avec mes voisines m'intéressent bien, avec elles ou avec d'autres personnes. Mais oui, continuer à exposer, oui, ça m'intéresse. Ouais. Après, avant, pas suffisamment, mais au moins exposer et rencontrer les gens, j'aime bien ça.
Merci Bertrand d'avoir répondu à mes questions.
Merci Émilie, c'était un plaisir.
Désormais, nous allons à la rencontre de Sophie Lemonnier, créatrice de bijoux à partir de champignons pour cette exposition. Bonjour Sophie.
Bonjour Émilie.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Bon, je m'appelle Sophie Lemonnier, j'habite Saint-Laurent-de-Trèves, je suis voisine de Bertrand. C'était la condition pour participer à cette exposition des voisins qui s'exposent. Et sinon, moi, je m'intéresse beaucoup aux plantes et aux champignons de plein de manières. Donc, j'ai, par exemple, enquêté sur les relations entre les champignons et les cévenoles il y a quelques années. J'ai écrit un livre à partir de tous ces témoignages. Et c'est un peu comme ça que, de fil en aiguille, je suis arrivée à me dire « Tiens, ce serait rigolo avec ces champignons-là que je rencontre sur le bois, dans les bois qui sont si jolis, de pourquoi pas en faire quelque chose qui nous accompagne comme des bijoux. »
Comment, enfin, t'as trouvé l'idée grâce, parce que t'as trouvé les champignons dans la forêt, mais pourquoi des bijoux et pas autre chose ?
C'est souvent des petits hasards, hein. Pour Bertrand, c'était la rencontre avec quelqu'un qui lui a montré quelque chose. Moi, c'est au cours d'une balade avec Maureen, une voisine du village en dessous, le Mazel, où on a trouvé des magnifiques polypores à couleurs variables, qui sont des petits champignons avec, comme Landon l'a dit, des couleurs très... variable selon les endroits, selon peut-être l'espèce d'arbre sur laquelle il pousse. Et voilà, et je ne sais plus si c'est elle ou moi qui a dit « Oh, ce serait rigolo de faire des boucles d'oreilles. » Vraiment, ça fait penser à des boucles d'oreilles. Et puis moi, me sentant pas du tout compétente pour ça, voilà, l'idée est passée et aurait pu repartir aussi vite. Et elle a dit « Ah, mais pas de problème, moi je fais des bijoux, je t'en fais une paire. » Donc elle m'a bricolé une super belle paire avec celle qu'on avait trouvée, ces champignons qu'on avait trouvés ensemble ce jour-là. Et comme je suis conteuse aussi, elle m'a fait des boucles d'oreilles énormes. Et moi, je me suis dit, mais jamais j'oserais mettre ça. Et puis, en fait, je les ai adoptées pour des spectacles de contes où je parlais de la forêt. Et c'était super. C'était ma première manière d'assumer, porter ces choses-là sur moi et qui était un peu voyante, un peu grosse. Et là, il y a des gens dans le spectacle qui me disaient « Waouh, c'était incroyable quand tu bougeais, ça faisait des couleurs différentes selon la lumière. » Et vraiment, ça allait tellement bien avec ce que tu racontais. Voilà. Donc ça m'a encouragée et puis après, j'ai vu un peu comment ça marchait et je me suis mise... à en bricoler moi-même pour mes copines et pour moi. De fil en aiguille, après, les copines en ont parlé à d'autres copines. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Mais, moi, je voudrais en vendre dans ma petite épicerie du côté de l'Odève. » Voilà, donc c'est vraiment pas du tout un projet au départ.
Est-ce que tu as fait d'autres bijoux avant ?
Alors... dans mon activité autour des plantes, j'animais des ateliers de tout ce qu'on peut faire avec les plantes, donc médicinales, alimentaires et tinctoriales. Et j'ai proposé des ateliers teinture de la laine avec différentes plantes. Et en fait, quelqu'un m'a appris à faire les petites boules de feutre. Des petites boules toutes légères. Et on s'est mis à teindre ces boules de feutre. Et puis on s'est dit, on va faire quoi avec ces boules de feutre ? Alors ça peut servir pour faire des sortes de boutons, des trucs de trousse. Et puis Voilà, l'idée est venue à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années peut-être, de faire des boucles d'oreilles en feutre teintes avec les plantes. Donc ça, ça a été ma première expérience. Et c'est là que j'ai eu les petits outils nécessaires et que j'ai eu les rudiments pour pouvoir avoir quelque chose qui s'accroche aux oreilles.
Quel est le processus de création des boucles d'oreilles de champignons ?
Alors, quelque chose que j'ai découvert dans mes premières expériences, notamment ces magnifiques boucles d'oreilles que m'avait fait Maureen, c'est que c'est du vivant, un peu comme avec les boules de feutre, les mites s'y sont mises et j'ai vu qu'il fallait les protéger d'une façon ou d'une autre. Et bien là, c'est pareil, c'est du vivant et c'est mangé par du vivant. Et donc, tous ces petits champignons qu'on trouve sur le bois mort ou sur les arbres malades, qui sont les champignons parasites, qui sont ceux qui m'intéressent, hein, parce que je n'ai pas précisé encore quels champignons, mais c'est des petits champignons qui sont très durs et qui, du coup, tiennent dans le temps, peuvent se conserver à condition de ne pas se faire attaquer par des insectes. Et en fait, il y a un petit coléoptère tout petit, dont je ne sais même pas le nom, je pourrais le trouver, mais qui va pondre ses œufs dans ces petits champignons. Et souvent, c'est au moment où je les ramasse, il y a déjà les œufs dedans. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les magnifiques champignons de Maureen, ils étaient tout mangés. Et donc, ils étaient pas durables sur plus de quelques mois ou quelques semaines. Et donc, là, j'ai changé de stratégie et j'ai commencé par... Donc, je trouve les champignons, ça c'est au cours des balades d'automne, d'hiver, de début de printemps. On arrive à... Quand on se balade beaucoup, comme je le fais... Je pars pas chercher ces champignons, je pars me balader et je ramène régulièrement ces champignons. J'ai aussi des amis qui m'en ramènent, qui participent à la récolte. Et puis ensuite, je les mets au congélateur pour tuer les petits œufs si jamais il y en avait. Après, je les fais sécher bien. Éventuellement, pour certains, il faut même les aplatir un peu, sinon ils prennent des formes un peu trop dans tous les sens. Pas pour tous, mais certains, il faut le faire. Après, je les vernis avec un vernis dont j'ai trouvé la recette sur Internet, avec de l'essence de térébenthine notamment, et de la gomme de Damarque, une gomme végétale, et quelques autres ingrédients végétaux, comme ça. Et donc, ça permet que des insectes ne reviennent pas s'attaquer aux champignons, a priori, parce que... La térébenthine, ça les repousse. En même temps, ça les rend un peu plus brillants, ce qui n'est pas toujours le souhaité. Donc des fois, je vernis que d'un côté, du côté qui ne se voit pas, parce que je n'ai pas envie de changer l'allure. Des fois, pour certains champignons, ça les fonce énormément, et ce n'est pas ce qui est voulu. On ne retrouve pas la couleur naturelle qui est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment, on trouve les solutions en avançant, quoi. Et du coup, comme ça, c'est plus durable, quand même.
Tu exposes beaucoup de boucles d'oreilles. Est-ce que tu fais d'autres choses avec des champignons ?
Pas encore d'un point de vue artistique, entre guillemets. Hein. Je ne me considère pas vraiment comme une créatrice de bijoux. Déjà, je veux le préciser. C'est ce qui a été marqué dans le petit article, mais... Je ne me revendique pas du tout par respect pour les vrais créateurs qui mettent beaucoup plus de leur créativité. Moi, je suis une glaneuse de champignons. Et donc là, en l'occurrence, glaneuse de boucles d'oreilles. C'est la nature qui les fait. Hein. Vraiment, c'est leur forme. Je ne la change pas du tout. Ouais. Simplement, je les rends présentables et accrochables, soit aux oreilles, soit... Je fais des broches aussi, des barrettes, des petites choses comme ça. Après, j'aimerais bien, j'ai vraiment pour projet de faire des choses plus composées avec des morceaux de bois. Pareil, je ramasse beaucoup de très beaux morceaux de bois ou des champignons beaucoup plus gros qui sont absolument pas accrochables, mais qui sont magnifiques, qui ont des formes incroyables, des couleurs. Donc, en fait, de... composer des petites installations avec des éléments naturels. Et là, peut-être, je pourrais un tout petit peu plus faire intervenir ma créativité artistique, entre guillemets, encore une fois. Donc ça, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai ramassé beaucoup de choses qui me permettraient. Pour l'instant, il me manque du temps parce que, par ailleurs, j'ai un travail d'animatrice, de formatrice, de conteuse qui me prennent beaucoup de temps et qui m'ont, pour cette exposition-là, pas laissé le temps de commencer ça. Mais pour la prochaine, il y aura des nouvelles propositions à montrer.
Y a-t-il une vraie différence entre des bijoux avec des champignons et des bijoux plus classiques ?
C'est donc vraiment des bijoux très sommaires, ce que je fais du point de vue de la technique de création de bijoux, comme je le disais. Hein. La différence, en tout cas avec ce qu'on peut trouver en général, pour l'instant on ne trouve pas encore d'autres. Comme j'ai fait, je crois que je suis en tout cas dans le coin la première à avoir eu l'idée. La différence, c'est de porter du vivant. Enfin bon, on peut faire aussi avec des graines, par exemple. Il y a des tas de graines avec des formes incroyables, et ça, on trouve plus souvent. En tout cas, beaucoup de gens en voyant, j'étais allée au marché de Noël avec mes boucles d'oreilles, et beaucoup de gens disent « Ah bah ça c'est original, on peut pas enlever ça à cet objet-là, c'est vraiment, on voit pas ailleurs quoi. » Et pour moi, ce qui est important, c'est que ça amène le regard sur le vivant qui nous entoure et qu'on regarde pas beaucoup. La plupart des gens, ils disent « Ah mais j'en ai jamais vu des champignons comme ça, alors qu'il y en a partout. » À partir du moment où on ouvre les yeux et du coup, de fil en aiguille, ah tiens, comment ils vivent, pourquoi ils poussent sur le bois. C'est moi, ma vraie envie derrière mon vrai objectif, je suis animatrice nature, c'est vraiment de relier les gens aux vivants qui les entourent et de proposer un regard plus précis, plus aimant sur le vivant, et je trouve que c'est une bonne manière. Voilà.
J'ai entendu dire que beaucoup d'œuvres de l'exposition ont été vendues. Qu'en est-il de tes bijoux ?
Pour l'instant, moi j'ai plein de petits objets, de petites boucles d'oreilles, de petites broches. Pour l'instant, il n'y en a pas eu tant que ça de vendues. Je pense que je n'ai pas été encore très présente. Les moments où j'étais présente, j'en ai vendu. Mais quand on n'est pas là pour raconter un peu la petite histoire qui va avec, c'est moins propice. Et moi, je vends avec. Alors, comme je disais, moi, mon objectif, c'est vraiment plus que de vendre, c'est de faire regarder, de faire s'intéresser à. Et en fait, j'ai mis à côté de mes boucles d'oreilles le livre que j'ai écrit et qui élargit énormément le regard sur tout ce que représentent ces champignons-là et tous les autres pour nous autres, les humains qui pouvons faire le choix de nous y intéresser, d'en ramasser pour manger, pour se soigner, et pourquoi pas pour faire ce genre de petites choses qui nous accompagnent au quotidien. Donc dans les jours qui viennent, je serai un peu plus présente les après-midi et j'espère échanger avec les gens et pouvoir leur raconter mes petites histoires de champignons et qu'ils repartent éventuellement avec la paire de boucles d'oreilles ou la barrette qui leur aura fait un clin d'œil. En tout cas, jusqu'à là, c'est vraiment ce qui est rigolo, c'est ça. Il y a des amis, par exemple, qui sont passés ou régulièrement chez moi, hein, j'en donne ou j'en vends selon. J'ai ramassé les champignons, je les ai préparés, mais je les ai pas tous montés. Et des fois, c'est les gens qui disent « Ah ben moi, je veux celui-là et tu me le montres plutôt avec un clip ou plutôt avec un crochet. » Et voilà, je peux vraiment faire à la demande en fonction de lequel a attiré vraiment le regard des gens. Et ça, c'est rigolo.
Combien coûtent tes bijoux ?
Alors, ils coûtent entre 5 et 10 euros.
Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et tes bijoux ?
un peu comme Bertrand, je suis pas, c'est pas du tout ma mon activité principale, c'est vraiment un petit à côté. Donc j'ai pas démarché dans les, par exemple, je pourrais le proposer dans les boutiques d'artisanes, etc. C'est souvent des copines qui tiennent ces lieux-là. Pour l'instant, j'ai pas cherché ça. C'est plutôt chez moi, en fait. Souvent, des gens qui passent à la maison, ils sont exposés dans ma petite pièce où je les prépare. Et voilà, c'est plutôt à Saint-Laurent-de-Trèves chez moi pour l'instant. Le marché de Noël, je pense que je le referai. C'était une bonne occasion de rencontre. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres expos de voisins comme celle-là. Voilà, on verra. En tout cas, on peut me contacter. Si des gens sont intéressés, on peut me contacter et passer à la maison et choisir.
Merci Sophie d'avoir répondu à nos questions.
Merci Amy de me les avoir joliment posées.
Et merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Vous pouvez voir l'exposition à la Ronceret jusqu'au 28 juin. Les horaires d'ouverture, c'est tous les jours de 11h à 19h. Et découvrir les œuvres des quatre voisins, Marthe Mazeron à la photographie, Sandra Rosado à la peinture, Sophie Lemonnier aux bijoux et Bertrand Lelou à la marqueterie.
Et voilà pour ces instants des Bartas. On se retrouve fin de semaine avec Fabien de Détour du Monde, puisque le festival revient mi-juillet, on en parlera avec lui. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À très vite, ciao.
C'est toi le conteur, c'est moi le menteur. Le disque d'argent demeure silencieux, au creux de l'élan, celui de tes yeux. C'est toi le penseur, c'est moi le graveur. Caché sous les mots, le cri de l'oiseau te dit d'être beau, je suis ton écho. Tes deux mains solides se croisent, le jeu s'en mêle, et toi, tu n'y vois rien. C'est art de jour et de joueur. Que tes deux mains solides se croisent, le jeu s'en mêle, et toi, tu n'y vois rien. Ces jours où je n'existe plus, délivré. Tu prends l'échelle de l'inconnu. tu prends l'échelle de l'inconnu. Tu prends l'échelle de l'inconnu. Tes deux mains seules, ils se croisent.